Opération pseudo-médiatique, mascarade, mouvement poujadiste, boulangiste. Ces mots ont été prononcés par Daniel Delaveau. L'ancien maire de Rennes répondait alors à une interpellation de son opposition lors d'un conseil municipal de novembre 2013. Une séance durant laquelle les élus de droite revêtirent quelques secondes des bonnets rouges en solidarité avec le mouvement initié quelques semaines plus tôt par des ouvriers, agriculteurs et patrons bretons contre l'écotaxe. Et soutenu plus ou moins discrètement par certains barons locaux influents à Paris. Une vague écarlate et une devise « Vivre, décider et travailler en Bretagne » et puis un hommage à une révolte bien plus ancienne, celle du papier timbré qu'a dû affronter Louis XIV. Mais peut-on vraiment comparer la version fin XVIIe siècle avec la version début XXIe ? Que raconte un tel mouvement du rapport des Bretons à l'État central ? Dans quel ordre les événements de 1675 se sont-ils déroulés ? Pendant une heure, nous allons revenir sur cette histoire aux allures de mythe, comme l'écrit notre invité, une histoire au clivage complexe et à laquelle des hommages sont rendus aujourd'hui. Des bars, des restaurants, des places, des rues, des promenades et même des bières font aujourd'hui référence au bonnet rouge. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Canal B pour un nouveau numéro de Chercheurs en ville. Notre invité aujourd'hui est Gauthier Aubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur en histoire moderne à Rennes 2. Vos recherches portent notamment sur l'histoire des conflits politiques et vous répondrez aujourd'hui aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et Christian Lebar à vos côtés, bonjour Christian.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, notre partenaire. Colette, c'est à vous.
Gauthier Aubert, vous avez publié 1675, les révoltes du papier timbré. Et révolte et répression dans la France moderne. En lisant vos livres, on apprend qu'un Rennais qui aurait vécu sous Louis XIV aurait connu 3 émeutes anti-protestantes, une révolte contre le prix excessif du grain, 3 contestations plus ou moins violentes contre les impôts et les taxes, et 7 autres troubles, dites-vous, mal identifiés. Mais indéniablement, la date phare pour la Bretagne et la France, c'est 1675. Certains historiens la présentent comme une rébellion paysanne, celle des bonnets rouges. Mais vous, vous parlez de révolte du papier timbré. Un moment charnière dans une société en pleine mutation qui a basculé dans l'écrit. Alors c'est quoi ce papier timbré qui a mis le feu aux poudres ?
Ah ben, le papier timbré, c'est tout simplement l'ancêtre de notre timbre fiscal. C'est une taxe sur les papiers officiels, que ce soit les actes de baptême, les contrats et autres. Et dans une société qui effectivement est en train de basculer dans l'écrit, on a un État qui promeut l'écrit, qui demande aux gens de s'enregistrer, d'enregistrer les naissances des enfants à travers les baptêmes, les mariages, etc. Ça vient d'être rappelé par Louis XIV. Donc une société qui bascule de plus en plus dans l'écrit, dans laquelle l'écrit occupe de plus en plus d'importance. Et bien cet écrit, ce papier officiel est fiscalisé et ça suscite une certaine indignation qui n'est pas que rennaise, qui n'est pas que bretonne, qui est française et qui s'inscrit aussi dans un train de mesures fiscales prises par Louis XIV et en fait par son ministre Colbert, parce qu'il s'agit de financer une guerre, la guerre de Hollande, qui a commencé un peu plus tôt, qui était conçue pour être une petite guerre à moyens quasi constants et qui, chemin faisant, s'avère être une guerre beaucoup plus compliquée et beaucoup plus coûteuse qu'il n'avait été envisagé. Et donc Louis XIV se tourne en quelque sorte vers Colbert et lui dit il me faut de l'argent. Et donc voilà, les impôts commencent, on ressort des cartons d'ailleurs des impôts qui avaient déjà été envisagés antérieurement, dont celui du papier timbré qui reste dans l'histoire car c'est lui qui polarise le plus de contestations au cours de la révolte, même si ce n'est ni à Bordeaux où tout a commencé, ni à Rennes où il y a eu le principal retour de feu, la taxe qui a été à l'origine de la révolte. Magie de l'événement.
Christian Lebar.
Alors pour bien comprendre, ça touche qui concrètement cet impôt à l'époque ?
C'est quasiment le cœur du débat historiographique. À partir du moment où on pense, comme beaucoup d'historiens, que, notamment dans les années 60-70, que le papier timbré c'est d'abord quelque chose qui concerne les élites, les notaires, les magistrats, les avocats, on va penser que c'est plutôt une révolte de ces gens-là qui peuvent emmener dans leur combat des gens plus modestes. Mais si on imagine que le papier timbré ça concerne en fait monsieur tout le monde, l'artisan qui va placer un enfant en apprentissage, message et qui va passer chez le notaire, le responsable d'une paroisse qui doit effectivement produire des actes, etc. Donc on a des papiers qui sont, la société est en train de basculer dans le papier, et le papier officiel, le papier pas officiel, la marquise de Sévigné qui à la même époque écrit des lettres à sa fille, elle n'utilise pas de papier timbré pour écrire des lettres à sa fille, elle utilise du papier libre. C'est justement les gens utilisent du papier, leur seul rapport au papier, c'est le papier officiel, c'est le papier timbré, c'est le papier qui est taxé. Donc moi, je pense que c'est une révolte qui concerne tout le monde. Alors évidemment, ce qu'on appelle la petite robe, les petits robins, les procureurs, la basoche, sont les premiers touchés, les premiers concernés. Ils vont servir, on va dire, employés en termes actuels, de lanceurs d'alerte. Mais très vite, leur combat, ils n'ont pas de peine à faire comprendre à d'autres que leur combat est un combat qui peut intéresser d'autres personnes, parce qu'ils font valoir évidemment que ces actes de la vie quotidienne vont augmenter le coût des actes mêmes, et donc ça va se retourner vers les potentiels clients. Donc c'est une révolte généralisée pour moi.
Ce qui veut dire qu'au plan symbolique, c'est aussi une révolte contre ce qu'on pourrait appeler une monarchie de papier, c'est-à-dire une monarchie qui commence à avoir les outils bureaucratiques pour exister par le papier, quasiment à l'échelle de la vie quotidienne d'un grand nombre de personnes.
Pour moi, c'est ça. C'est vraiment la monarchie. Le terme est peut-être un peu discuté aujourd'hui, est en train de basculer vers une monarchie administrative. Elle produit de plus en plus de papier. Elle contrôle de plus en plus le territoire par le papier. C'est l'époque. Colbert a essayé de lancer une grande enquête nationale pour connaître le royaume et en fait, faire un royaume de papier, ça va pas très bien marcher. Mais à la génération suivante, pour l'instruction du futur roi qui ne régnera finalement pas, on fera la même entreprise et ça marchera très bien. Donc on pourra constituer dans les bureaux versaillais un royaume de papier, ce qui permet finalement de dispenser au roi de se déplacer dans les provinces. Ce royaume de papier, son avènement, c'est le moment où le roi cesse de se déplacer dans les provinces. L'installation à Versailles, 1682, sédentarisation de la monarchie, 1693, Louis XIV cesse d'aller à la guerre, et à peu près au même moment, on a des intendants partout qui eux-mêmes ont des représentants, des subdélégués, qui peuvent drainer de l'information, faire remonter l'information, et donc constituer le royaume de papier. Et par ailleurs, on voit bien que cet État qui est capable de demander des actes qui demande aux Français, qui rappelle, c'est une vieille mesure, mais qui est rappelée, et ça va marcher, on le voit dans les archives, là ça marche, que les trois éléments de la vie soient vraiment enregistrés, et donc si après on demande un extrait de baptême, il faudra demander le papier timbré, la naissance à travers le baptême, le mariage et le décès, on entre dans la vie quotidienne des gens. C'est comme ça que c'est perçu. Nous qui vivons entourés de papiers, ça peut nous sembler extrêmement banal et pas très important, mais il faut imaginer le bon que ça peut représenter pour des gens pour qui, en plus, notamment dans des sociétés dans lesquelles l'écrit n'est pas d'une évidence totale, où les gens ne maîtrisent pas forcément l'écrit, il représente un caractère d'étrangeté. Et c'est ça. Moi, je lis à un moment dans un des bouquins, l'État, c'est quoi? C'est des armes, on dit, le monopole de la violence agit, mais c'est aussi du papier. Et quand on remplit aujourd'hui notre déclaration d'impôt sur le revenu, quelque part, on est dans cette logique-là, même si on le fait en ligne, dans une forme de reconnaissance de la valeur d'un État qui nous est supérieur.
Les actes, ils sont enregistrés en français ou en breton,
ou les deux? En français. Ils sont enregistrés en français.
Et dans une région comme la Bretagne, et particulièrement Finistère, etc., comment ça se passe?
On peut supposer que dans les régions qui ne maîtrisent pas le français, alors après, effectivement, le caractère d'étrangeté de l'écrit est encore plus important. Néanmoins, il faut voir que beaucoup de Français, même je dirais les gens de Haute-Bretagne, ne comprennent sans doute pas tout à fait ce que les Parisiens peuvent raconter. Donc la diversité linguistique est la norme, même si elle est particulièrement accusée en Basse-Bretagne, où effectivement les gens parlent breton et ne peuvent que, sauf quelques cas, avoir un lien avec la pratique du français.
Là, vous venez de dire les Parisiens. Dans votre livre, à un moment, vous dites que les agents du fisc, on peut dire ça, les agents du fisc?
On peut dire ça, oui.
De manière insultante, sont considérés comme les Parisiens. C'est les Parisiens qui arrivent pour prendre l'argent, pour prendre les taxes.
C'est Parisiens, oui. On a ça dans plusieurs révoltes du XVIIe siècle, où effectivement le gableur, celui qui prélève l'impôt, est surnommé le Parisien. Quoi. Le Parisien, bon, à tort ou à raison, il n'est peut-être pas du tout Parisien, il est peut-être orléanais ou dijonnais, mais enfin, ou de Pontivy, mais il peut passer pour Parisien, effectivement. Il y a cette idée qu'effectivement, ça vient de là-haut, ça vient d'ailleurs.
Les hommes habitaient cette terre.
Des hommes, c'est beaucoup dire, Majesté. En fait, les Bretons ont un langage dur et difficile à comprendre qui s'apparente plutôt à celui des animaux.
L'historien Jean-Nicolas a comptabilisé 3380 rébellions en France entre 1660 et 1789. Alors qu'est-ce qui caractérise et singularise vraiment ce que vous appelez les révoltes du papier timbré et ou des bonnets rouges?
La marque de fabrique de cette révolte, c'est d'abord que c'est la dernière, ou quasiment la dernière, grande révolte communautaire. En gros, l'époque de Louis XIV en matière de rébellion est un moment de basculement. Avant, il y a dans l'héritage des Pitots, des grands révoltés angoumois et bordelais du XVIe siècle, de grandes révoltes régionales qui associent un territoire rural et une ville. En l'occurrence, là, ce sera particulièrement 1548 Bordeaux. Cette fois-ci, ce sera Bordeaux et encore Rennes et Nantes dans une moindre mesure. Donc des grandes révoltes communautaires où les gens sortent dans les rues, crient, ou dans les par les champs, crient « Vive le roi sans la gabelle ». Ils sont intimement persuadés que l'impôt est illégitime et que le roi est avec eux. L'idée, c'est qu'ils rêvent d'un âge d'or, plus ou moins mythique, où le roi, c'est Saint-Louis sous son chêne, qui rend la justice. Ils n'ont pas l'idée qu'un État puisse être autre chose que cela. Il faut les défendre, bien sûr. Et donc l'impôt, ils peuvent l'accepter, mais ils gardent toujours un parfum d'illégitimité. Ils ne l'acceptent pas complètement, ou alors il doit rester très exceptionnel. Et donc ils sont persuadés que le roi est entouré de méchants ministres, de méchants conseillers, que ces méchants ministres ont eux-mêmes des relais, qui sont donc ces Parisiens là, qu'on peut voir arriver au coin de la rue, au coin du champ, pour prélever des impôts. Et donc, il faut rétablir un ordre juste, un ordre harmonieux, avec un bon roi père des peuples qui comprend ces sujets. Et puis, progressivement. Et donc, ça justifie ces révoltes très communautaires, et puis qui sont nourries de cette idée. Et puis, ce qui se passe sous Louis XIV, c'est que ce grand modèle de la grande révolte communautaire, avec des milliers d'individus, c'est les Croquants dans le sud-ouest, c'est les Nupiers en Normandie, c'est les Lenturlus à Dijon, c'est les Cascavéous à Aix-en-Provence. Ils portent parfois des noms assez puissants. C'est les Sabotiers en Sologne, ou encore les Lustucrus dans le Boulonnais, pour citer les plus célèbres. Ces grandes révoltes communautaires de plein jour, hein, qui, avec des gens qui s'estiment parfaitement légitimes dans leur révolte, disparaissent.
La singularité de cet événement, c'est à la fois, comme vous dites, le côté Chant du Cygne, c'est la dernière grande rébellion anti-étatique, etc. Mais c'est aussi l'intensité de la répression.
Il y a quelque chose qui est très important qui se passe sous Louis XIV, c'est que finalement, on voit avec Jean-Nicolas, que vous évoquiez, que finalement les rébellions continuent, hein, elles vont même aller plutôt s'intensifiant jusqu'à la Révolution française, mais elles sont de plus en plus populaires. Et donc les élites comprennent où est leur camp, alors qui par conviction, qui par intérêt, évidemment c'est toujours difficile d'estimer, mais on voit bien que ces révoltes sont de plus en plus populaires et qu'elles changent de forme. On a toujours des contestations antifiscales, mais ces contestations antifiscales sont plutôt des sous-produits de la fraude. Le modèle, si on prend un exemple rennais, j'avais travaillé une étudiante de master, Noël Leclerc, il y a quelques années sur cette révolte rennaise en 1702, révolte très intéressante qui se passe pas loin d'ici, du côté du siège de Ouest-France, la rue du Prébeauté. Une femme est dénoncée par ses voisins pour vendre du cidre en fraude, du cidre non taxé. Elle est dénoncée par ses voisins, descente des commis du fisc, qui saisissent les barriques, et cela suscite un embrasement de solidarité. Elle hurle, hein, elle crie, etc. Et donc, notamment une révolte de femmes, hein, qui viennent, et puis après les hommes sortent des ateliers et viennent à la rescousse. Et donc on chasse les commis, on tue personne, mais c'est quand même plusieurs centaines de personnes qui sont sorties dans la rue. Et là on voit que typiquement la révolte, c'est carrière révolte, où on n'a pas crié vive le roi sans la gabelle, on a tué personne, on a juste voulu marquer un territoire, le sud de Rennes, là, le côté de la rue Vasselot, la rue du Prébeauté, et on a voulu marquer ce territoire, et on n'est pas allé au-delà, mais on n'a pas crié vive le roi sans la gabelle, on a juste voulu se débrouiller. Et en fait la révolte devient sous-produit de la fraude, de la contrebande dans la plupart des cas. Alors je reviens sur la question de la répression, parce que la répression, je pense qu'elle a été elle passe dans la mémoire bretonne pour extrêmement brutale, mais il y a juste un souci, c'est que, si quelqu'un vient de découvrir quelque chose dont il n'aurait pas été encore informé, ce qui peut arriver d'un moment à un autre, aujourd'hui, on n'a quasiment pas d'archives sur la répression. Et donc, il faut être très prudent. Et par ailleurs, les éléments de contexte relatifs à la répression tendent plutôt à indiquer qu'elle n'a pas forcément été si brutale que ça, pour une raison très simple. La Bretagne est très largement démilitarisée. Or, elle vit sous la menace d'une descente hollandaise. La flotte hollandaise rôde sur les côtes. Elle a déjà pointé ses voiles au large de Brest jusqu'au milieu du golfe de Gascogne l'année précédente, suscitant une véritable panique sur les côtes françaises. On n'a pas les moyens de contrecarrer. Ça fait partie du jeu, hein. On va créer un front intérieur secondaire chez l'ennemi. Les Français font pareil, que les Hollandais fassent la même chose en France, c'est tout à fait normal. On compte sur les populations. On compte sur les populations pour surveiller les côtes, pour les défendre le cas échéant, alors avec un petit noyau de militaires, mais on compte sur ces supplétifs pour être là et pour mener des combats de moyenne intensité. C'est des gens de Carhaix qui s'est révolté en 1975 avec vigueur, qui ont été mobilisés pour faire des travaux de terrassement à Brest. Donc on va chercher les gens très loin dans la campagne. Donc on n'a pas forcément intérêt à se fâcher avec les gens. Donc moi, à mon avis, ce qui s'est plutôt passé, c'est qu'on a joué sur plutôt... Alors évidemment, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas rien eu. Il y a des gens qui ont été envoyés aux galères, des gens qui ont été envoyés à la roue, des gens qui ont été pendus, ça c'est sûr. Le nombre, on ne peut pas tellement le savoir. Les quelques éléments qu'on a tendent à dire que ce n'est pas un nombre colossal.
Quand même donner quelques chiffres là.
Alors, quelques chiffres. Eh ben, en fait, le nombre de cas documentés sur la Basse-Bretagne, la partie bonnet rouge, hein, la partie qui correspondra en gros avec le département de Finistère, le nombre de cas documentés de personnes condamnées à mort, ce chiffre à moins de quelques dizaines. Enfin, on est sur 15-20.
Mais
ça, c'est le chiffre plancher.
Ceux envoyés aux galères ou bannis.
Envoyés aux galères, les registres des galères ne plaident pas en faveur d'un envoi massif aux galères. Donc, pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux choses. C'est que le duc de Chaulnes, donc l'homme qui est de la répression, qui passe pour une sorte de bourreau des Bretons.
Rappelez sa fonction.
Il était gouverneur de Bretagne, donc premier représentant du roi en Bretagne. C'est un individu qui est. Qui est un diplomate, en fait, plus qu'un militaire. C'est quelqu'un, d'ailleurs, c'est parce qu'il a des talents de diplomate qu'il l'a envoyé en Bretagne, parce qu'il faut négocier l'impôt avec les Bretons. Et donc, cet individu, il va manier des symboles, donc il va effectivement faire araser des clochers, notamment en Pays Bigoudin. Mmh. Il va notamment faire déterrer le corps du principal meneur pour le réexécuter après sa mort. Il va effectivement envoyer un certain nombre de personnes aux galères. Mais il va surtout mener une opération de pacification et de reprise de contrôle du territoire, parce qu'il ne faut pas insulter l'avenir, à moins dans ce sens-là. Et par ailleurs, il se passe une chose très intéressante, à mon sens, c'est que l'État n'a absolument pas les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose qui est très frappante, c'est que cette révolte-là se traduit par environ 150 personnes qui seront exclues de l'amnistie. Les révoltes finissent toujours par une amnistie. À un moment, le roi recouvre du manteau de l'oubli et du pardon. Voilà. Et puis, généralement, bon, les cas les plus graves qu'on n'a pas réussi à attraper sont exclus de l'amnistie. Là, on en a 150. C'est colossal. À mon avis, l'explication est simple. Ils sont disparus dans la nature. On a le témoignage d'un officier qui dit qu'ils ont essayé d'attraper les bonnets rouges et qu'ils n'ont jamais réussi à attraper personne.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui serait plus de l'ordre de la répression symbolique autour de la marginalisation du Parlement et des retours de l'intendant?
Alors...
Est-ce qu'il ne s'agit pas de punir la Bretagne, là?
Il s'agit de punir Rennes. La ville qui a pris le plus fort, c'est Rennes. À vue d'archives, c'est Rennes. Rennes parce que Rennes, dans la pensée politique du temps, Rennes doit être exemplaire, elle ne l'a pas été, c'est par elle que la Bretagne a basculé, c'est elle qui a envoyé des mauvais signaux, et au sein de Rennes, c'est la rue qui deviendra la rue de Saint-Malo, donc on décide de la détruire, ce qu'on ne fera pas complètement. Donc voilà, on identifie le mal. On identifie là, et puis on identifie... Le Parlement, c'est plus compliqué... Le Parlement, effectivement, est envoyé à Vannes. Et comme l'a dit le marquis de Sévigné, c'est vraiment une catastrophe pour Rennes, car sans cela, Rennes ne vaut pas Vitré, ce qui est toujours très aimable de sa part. Mais bon, elle n'était pas à une vacherie près. Et elle en a sorti des bien pires. Et c'est vrai, il s'agit de punir Rennes. Rennes, c'est une ville en monoactivité. Et il s'agit aussi de prendre les Rennais à leur propre jeu. Les Rennais ont dit, enfin notamment les élites rennaises ont dit, la révolte a éclaté à Rennes, mais c'est pas nous les notables, c'est parce que nous sommes entourés, nous sommes encerclés de masses de pauvres agglutinés qui viennent des provinces voisines, et c'est cette tourbe-là qui s'est révoltée. Nous, on n'y est pour rien, on a fait de notre mieux, on a été débordés. Qu'à cela ne tienne, eh bien écoutez, on va vous mettre dans une ville tranquille. Vannes, le cynisme évidemment de la monarchie, qui permet d'envoyer un signal, mais vous noterez notamment que aucun parlementaire n'a été démis, exilé, renvoyé, etc. On a collectivement déplacé à Vannes un parlement qui, par ailleurs, tient ses sessions de manière semestrialisée, un peu comme l'université aujourd'hui, et quand elle peut fonctionner. Et du coup, pour ces parlementaires qui sont tenus à résidence à Rennes 6 mois par an, qui les 6 autres mois sont dans leur château, c'est inconfortable.
Ils sont assez ambivalents quant à la révolte.
Alors, ils sont ambivalents quant à la révolte, mais ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que les gens des parlements, pour eux, le match est terminé. Ils se sont révoltés, enfin, ils ont contesté ces impôts dans une phase antérieure. Ils ont perdu. les parlements n'ont pas forcément intérêt en tant qu'institution à contester une loi qu'ils ont, un texte du roi qu'ils ont enregistré. Il y a des logiques d'institution qui jouent sans doute. Alors, chez certains, ça peut provoquer des tourments intérieurs, mais effectivement, tout le monde est contre l'impôt, ça embête tout le monde trouve ça scandaleux, etc. Mais le Parlement, une fois qu'il a enregistré, il a enregistré. Et le Parlement, il est plus timide que militant dans l'affaire. Et ce qu'on va lui reprocher, ce sont ces timidités. Alors, il y a ça, et puis il y a ce fameux duc de Chaulnes dont on parlait tout à l'heure, qui a été complètement débordé par l'émeute rennaise, injurié par lui, on l'a traité de gros cochon, etc. Il avait un physique qui tendait plutôt à le comparer à un cochon qu'à un lièvre, effectivement.
Son épouse a reçu un chat crevé.
On dit qu'effectivement, prends ça, vieille sorcière, bon, c'est toujours pas très agréable, un chat même pourri, hein. Donc il y a toute une symbolique du chat, hein, d'ailleurs. Hein.
C'est bon. Rappelez-la.
Le chat, c'est un animal qui évidemment a très mauvaise réputation, qui est symbole de malheur, et donc c'est un chat pourri. Après qu'en plus on ait demandé à cette duchesse de Chaulnes de le baptiser, donc on est dans le phénomène, on est dans le carnaval, quoi. Enfin, on est dans une forme d'inversion totale des symboles. Robert Darnton a montré dans un texte célèbre, Le Grand Massacre des Chats, combien la figure du chat était une figure sur laquelle se polarise toute forme de contestation et toutes les phénomènes d'inversion. Donc on est sur quelque chose d'assez violent, hein, en 1672, les frères de Witt sont massacrés par la foule à Amsterdam pour n'avoir pas résisté à l'arrivée des troupes de Louis XIV. Le tableau qui est aujourd'hui conservé à Amsterdam, qui montre leur corps mutilé, au pied du tableau, au pied de la potence, il y a un chat crevé. Hein, donc ça dit bien ce rejet total. Donc la duchesse de Chaulnes, le duc de Chaulnes a été injurié par la rue, insulté, et donc il cherche à se venger. Et il cherche aussi à dégager ses propres responsabilités, car il semble qu'au milieu de l'émeute, il n'a pas été c'est un diplomate, et donc il est obligé de s'arranger avec le réel. On voit bien, il est là, il est un peu seul, il a quelques gardes avec lui, mais enfin, il est face à une ville qui se révolte, qui n'est pas contente. On fait des promesses, on lâche des prisonniers, on ouvre le magasin d'armes, et puis après, il faut aller rendre compte à Louis XIV, à Colbert, à Louvois, de ce qu'on a pu faire sur le terrain. Et donc, dans ces cas-là, il est bien pratique de dénoncer le Parlement en disant « c'est pas moi, c'est lui ». On est sur un petit jeu très classique au sein des élites locales, et il en va des élites locales comme des équipes de football. À partir du moment où on commence à perdre, tout le monde s'accuse d'être la cause de la défaite. Et là, donc, c'est pas moi, c'est lui. Et à ce petit jeu-là, le Parlement a perdu. Hein. Le Parlement a perdu, d'autant qu'au sein du Parlement, ça se passe pas très bien. Le premier président du Parlement n'est pas très populaire dans sa compagnie, et la première chose qu'il a fait à l'issue de la crise, c'est d'aller pleurnicher à Versailles pour vendre sa cause. Et là, on sait pas très bien ce qu'il a raconté sur ses confrères.
Sent-il sans son que... Un journaliste de Libération a dit que c'était une chanson d'extrême droite. Donc, parce que, bah oui, si jamais il y a quelqu'un d'extrême droite qui chante une chanson, la chanson devient d'extrême droite. Si Marine Le Pen chante Au clair de la lune, ça devient une chanson d'extrême droite. C'est encore la bourse parisienne. Il regarde plus les paroles, il regarde plus le sens. N'importe quoi. Allez, tous ensemble. J'ai rencontré ce matin, devant l'arrêt de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée.
Peut-être pour faire un lien avec les lectures contemporaines de ces événements et les réappropriations, voire les instrumentalisations auxquelles on assistera au XXe siècle et au XXIe siècle, on a envie de vous poser la question un peu fondamentale du point de vue d'analyse historique, c'est-à-dire est-ce que c'est une révolte de classe, est-ce que c'est une révolte régionale, quelle est la place respective de la classe sociale et du territoire où, ma question est très, très, très simpliste, hein, puisque ça peut être les deux en même temps, mais voilà, comment faire la part de l'un et de l'autre ?
C'est très difficile de répondre. Moi, j'ai un peu envie de... c'est vrai que dans la grande époque de l'étude des révoltes, hein, les années 60, 70, la question des révoltes a été une sorte de combats de la guerre froide, hein, avec des historiens qui pensaient en termes de classe, d'autres qui pensaient en termes d'ordre, et ça a été un lieu de débat. Moi, je sais pas très bien comment me situer par rapport à ce débat qui existait à l'époque où j'étais à l'école primaire, voire maternelle. Moi, j'ai l'impression que cette révolte est fondamentalement antifiscale. Je sais qu'on va dire que les bonnets rouges se sont attaqués à des châteaux, etc., mais ils n'ont pas attaqué tous les châteaux. Ils n'ont pas attaqué tous les châteaux. On a même une correspondance d'une châtelaine qui montre comment elle a réussi à détourner l'orage. Une châtelaine qui était en conflit avec ses paysans pour un procès. Il y a eu des phénomènes de médiation. Et puis, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. On sait aussi qu'il y a eu des règlements de compte internes à la paysannerie. Ce que je vois, moi, c'est que la révolte est fondamentalement antifiscale, mais que ce faisant, une fois que la révolte est lancée, elle peut faire rejouer des conflits sociaux. Notamment autour, je pense au principal châtelain qui a été qui a vu son château brûlé, pillé, sa femme traumatisée, évacuée du château. Enfin, ça a été quand même une sale histoire. C'est quelqu'un qui avait, enfin, cette famille-là avait un contentieux très fort avec la paysannerie. Il y avait une tentative d'assassinat contre le seigneur quelques années plus tôt. C'était peut-être un méchant seigneur. Et d'une façon générale, ce qu'on comprend, c'est que les historiens des Trente Glorieuses ont souvent fait une analyse peut-être pas assez critique des documents. L'essentiel de nos connaissances sur les révoltes, ce sont des textes qui viennent des élites. Et les élites ont tendance à lire les phénomènes de révolte, notamment ceux qui écrivent, ils écrivent peut-être pour se rassurer, pour se reconstruire après l'événement, ils ont tendance à lire ces événements, et ça c'est mon collègue ami Philippe Hamon qui a beaucoup développé cette idée-là qui me semble vraiment très féconde, ils ont tendance à lire l'événement rébellionnaire comme un moment de subversion sociale, hein, notamment dans la deuxième phase. La première phase c'est toujours on attaque les bureaux d'impôts, puis après on attaque les riches. Mmh. Et donc les gens disent on va tous y passer, c'est notre avis, on va tous y passer, et donc ça provoque une sorte de sursaut, et donc ça peut conduire vers une répression menée par les notables locaux. Mais, en fait, en général, la subversion sociale n'est pas au programme des révoltés, qui s'attaquent aux mauvais riches, aux traîtres, aux voleurs, celui qui, justement, a pactisé avec les Parisiens, celui qui s'est vendu à l'impôt. À Bordeaux, la figure détestée, c'est le trésorier de France Vivet. Vivet est un ancien frondeur, il a participé à la vie collective, il était contre cet État qui venait, il était contre les Mazarins, etc. Et puis, une fois que Mazarin a gagné, il a vu où était son intérêt, et puis il est devenu un des principaux financiers bordelais, et donc il s'est enrichi. Il a même été à l'origine des nouveaux impôts locaux qui ont été mis sur la tête des Bordelais pour payer les dettes de Bordeaux. Donc les Bordelais, non seulement ils ne l'aiment pas, mais en plus ils le considèrent comme un traître. Arrive la révolte de 1675 à Bordeaux qui commence là sur la taxe de l'étain. La principale cible des émeutiers, c'est la maison de ce personnage qui est complètement pillé à Bordeaux et qui passe pour le salaud de première. Donc on considère que ce sont des biens mal acquis. Et c'est ça. Et donc, il y a une culture d'une forme de vengeance ciblée. Alors évidemment, comme d'une part, les gens, on n'est jamais complètement sûr de ne pas être sur le cas. Quand on est soi-même riche et qu'on peut avoir peut-être au fond de son cœur quelque chose, des éléments à se reprocher, on peut se dire le prochain c'est moi. Et donc, lire socialement en termes de classe une contestation qui ne l'est pas forcément. Et puis par ailleurs, il faut quand même reconnaître que les révoltés, parfois, ils sont très bien informés, parfois, ils ne sont pas très bien. Et donc, ils ont parfois tendance à... leur frappe ciblée rate leur cible parce qu'ils pensent qu'un tel est un gabeleur, parce que son frère... on a dit que son frère était un gabeleur. Le premier personnage qui est molesté dans les rues de Quimper, il aurait été molesté parce qu'il serait parent de celui qui avait apporté le texte disant qu'il fallait payer l'impôt à Châteaulin. Alors voilà, on tombe sur lui au marché. Voilà, donc vous voyez, si ce n'est donc toi, c'est donc ton frère. Et donc, c'est vrai que parfois les révoltés sont mal informés, et donc on peut comprendre que ça puisse susciter une certaine peur de la part de notables qui ont éminemment conscience que leur poids numérique est réduit et qui ne bénéficient. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie. Vous savez, dans la France d'ancien régime, il y a 5000 gendarmes pour tenir une population de 20 et quelques millions d'habitants, dont 80% rural. La milice bourgeoise tient lieu de police. La police est faite par monsieur tout le monde. Donc on peut comprendre qu'il y ait des phénomènes de peur. Donc je ne réponds pas complètement à la question, mais il y a du social dans le fiscal. Je crois qu'il ne faut pas séparer les deux. Les deux vont de pair, selon peut-être une grille de lecture qui n'est plus tellement celle que l'on pouvait avoir dans les années 70 ou encore 80.
En cette période agitée, une pause musicale. A Quiet Revolution par le groupe Tiffany Shade.
A quiet revolution's taking place in the back of my mind, of my mind. Something deep inside's telling me to go back in time, back in time. The special place where I wanna be is that moment when I knew you loved me. I'm going back in time, make you mine. Yesterday's joys are a thing of the past to you. Now we're through, we must go back, for I know I can make them new. All for you, there's something there that we left behind. With that just a little luck we can find, going back in time.
make you mine. Quiet revolution's taking place in the back of my mind, something deep inside's telling me to go back in time, the special place where I wanna be, is that moment when I knew you loved me, I'm going back in time.
De Tiffany Shade à l'instant sur Canal B, A Quiet Revolution. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en Ville qui revient aujourd'hui sur la rébellion des bonnets rouges ou la révolte du papier timbré du nom de cet impôt qui a embrasé les villes et campagnes bretonnes en 1675 sous Louis XIV dans une France où l'écrit prenait une place de plus en plus importante. Dans la deuxième partie de notre émission, on va s'intéresser à la construction de ce symbole de protestation et à la façon dont il a été récupéré au cours de cette dernière décennie. Gauthier Aubert, professeur d'histoire moderne à Rennes 2, est notre invité. Il répond aux questions de Christian Lebar et Colette David.
Gauthier Aubert, à quel moment la révolte des bonnets rouges, les révoltes du papier timbré ont fait partie du mythe régional et sont devenus un mythe rébellionnaire breton?
Vous avez raison d'y insister parce que c'est sans doute la seule révolte de cette époque-là qui a encore aujourd'hui un écho dans le paysage politique, culturelle. Hein. Les Lanturlus de Dijon sont connus des historiens, mais guère plus. Et nos étudiants qui viennent de la région d'Avranches connaissent rarement les nu-pieds hein, qui ont été les bonnets rouges de cette partie-là du monde. Donc nous, effectivement, en Bretagne, on a cette mémoire. Alors quand est-ce... Alors ça, c'est une longue émergence. Alors je crois qu'il y a... C'est un long chemin. Il y a d'abord... c'est un peu une découverte récente que j'ai faite, l'importance des lettres de la marquise de Sévigné. Qui ont été publiés relativement tôt et connus des cercles lettrés. Quand sous la Restauration, au début du XIXe siècle, se font les nouvelles grandes histoires de Bretagne post-révolutionnaire, des historiens se saisissent des lettres de la marquise de Sévigné. Et donc très tôt, la marquise de Sévigné, ces lettres portaient essentiellement sur la répression. Et très tôt, du coup, le regard va être porté sur la répression. Donc, les lettres de Maxime, pour s'en indigner, hein, très tôt. Et Chateaubriand et Moelle Retombe, ça passe un peu inaperçu parce qu'il ne cite pas la révolte en elle-même, mais il cite une phrase de la marquise de Sévigné pour comparer la révolte, la répression à la terreur de l'an 2. Et il dit, en gros, la marquise de Sévigné parle des pendus comme Barrère parle de la guillotine. Et il lui en veut pour ça. Il ne parle pas expressément de révolte. Donc on voit que là, il y a la marquise de Sévigné, l'impact que ces lettres ont eu, leur place dans le paysage littéraire français du 19e et 20e siècle, a joué un rôle moteur dans la promotion de la révolte sur un mode victimaire. À ça s'ajoute, à peu près dans les mêmes années, milieu 19e, parce que bon, Victor Hugo dans 93 parle des bonnets rouges, hein, donc ils sont déjà là. Victor Hugo 93, c'est 1874 de mémoire. S'ajoute à ça la découverte d'un document assez extraordinaire qui est un chant, en fait, la ronde du papier timbré qui est collecté dans la région de Guingamp et qui, sur un mode assez métaphorique, semble parler de la révolte et jusqu'à on s'est très longtemps demandé si ce n'était pas une forgerie. Et très récemment, l'historien Michel Nassier, aidé par notamment Donatien Laurent, ont établi que c'était un texte de l'époque, hein, qui parlait de l'époque avec une analyse du texte très serrée. Et ce document, très tôt, va dans le contexte du Barzaz-Breiz, de la redécouverte régionaliste, va susciter un intérêt. Donc la marquise de Sévigné d'un côté et ce texte de l'autre lance l'affaire au milieu du XIXe siècle. Et donc très vite, l'affaire devient un élément clé de l'histoire de Bretagne.
Christian Lebar.
Ma mémoire me trahit, mais la marquise de Sévigné, quelle est sa position? Elle est effrayée par cette révolte?
Alors, la marquise de Sévigné, elle ricane de la révolte, oui, parce qu'elle est à Paris. Et puis, elle a décidé d'aller en Bretagne pour passer l'automne. Et plus elle se rapproche de l'événement, moins elle ricane. Et au début, elle arrive un peu dans les wagons de la répression. C'est-à-dire que son arrivée en Bretagne se fait dans le courant du mois de septembre 1675, c'est-à-dire à peu près au moment où l'armée arrive.
Quand vous dites en Bretagne, C'est où exactement ?
Elle arrive par Nantes, elle arrive par la Loire, donc elle arrive par Nantes.
Et elle va où ?
Et après, elle s'installe à côté, elle s'installe chez elle à Vitré. Et donc, elle ne voit rien de l'événement. En revanche, la Marquise de Vigné, c'est un peu le canard enchaîné, si vous voulez. Elle est très bien réseautée, elle sait tout sur le petit microcosme politique. Les gens viennent dîner chez elle, elle connaît tout le monde, elle est amie.
Elle ne se scandalise pas de la répression sur sa chère Bretagne.
Ah, ça, c'est un départ. À première vue, non. Enfin, elle a sa langue inimitable marque une distance évidente et ça choque énormément, effectivement. En reprenant le dossier attentivement, j'ai cru remarquer que ça la gêne quand même. Et progressivement, elle est de plus en plus gênée. Alors évidemment, mais la Marquise de Vigné n'est pas le genre à pleurnicher comme ça et à s'épancher. Il faudra toujours qu'elle se sauve par une pirouette mondaine. On est dans l'ordre du dîner en ville, hein, dans ce qu'elle raconte. Et donc, et puis il faut qu'elle donne des choses aussi assez pimentées à sa fille pour continuer à entretenir cette relation qui lui est personnellement très importante. Donc, quand on regarde progressivement, non, elle désapprouve. Hein. Elle désapprouve le traitement. Elle trouve que c'est trop, quoi. Elle trouve que c'est trop pour des raisons qui touchent son intérêt, parce qu'il y a des soldats qui viennent autour de chez elle, qui gênent ses propres prélèvements, et puis elle trouve que c'est trop parce que c'est trop. Et là, j'ai proposé une analyse qui est un peu révisionniste, disons, c'est que la Marquise de Vigné, qui était taxée de mauvaise bretonne, hein, unanimement, n'est pas progressivement si mauvaise bretonne que ça, et elle illustre à travers certains, c'est sincèrement quand on vraiment fait une analyse précise de ces textes, de ce début de retournement de sensibilité que l'on verra aussi à l'œuvre quelques années plus tard, quand une partie de l'Europe s'indignera du sac du Palatina par Louis XIV. Et on voit que là, il y a quelque chose qui se joue où ça ne passe plus aussi bien qu'avant. Et elle est notamment indignée parce qu'elle a les yeux sur la répression rennaise qui, comme je vous le disais, est particulièrement brutale pour une ville d'ancien régime.
La marquise écrivait à 5 heures, rien ne va plus au pays de Bretagne. Figurez-vous que la canaille, comme dit mon ami le duc, bastonne les huissiers du roi et dans leur cave fait ripaille. Figurez-vous qu'on brûle et pille dans la bonne ville de Rennes.
Pour la constitution du mythe, la marquise de Sévigné, Chateaubriand, Victor Hugo.
Et alors, le moment clé, c'est Arthur de la Borderie, le grand historien breton de la fin du 19e siècle, qui était député monarchiste au début de la Troisième République, et qui a vraiment, alors à partir d'éléments qu'il n'a pas inventés, mais qui, avec le brio, l'intelligence qui était la sienne, a réussi à cristalliser tout ça dans une grande histoire de Bretagne qui est encore disponible dans toutes les bibliothèques universitaires et municipales de la Bretagne, et même de la Bretagne en mode B5. C'est lui qui crée ce que j'appelle le roman régional breton, qui est le pendant du roman national, tel que la vie, sa génération un peu décalée, est en train de le mettre en place au niveau national. Et le roman régional breton, c'est un roman qui dit les Bretons sont des résistants, les Bretons sont des rebelles, et ils sont depuis toujours en lutte contre leurs grands voisins, et ce grand voisin les maltraite. Et donc, à partir de là, les bonnets rouges sont embauchés, et la Marquise de Sévigné, évidemment, avec ses lettres, ne peut que servir ça, ils sont embauchés dans la grande cohorte des résistants, qui va depuis...
Donc voilà, légitimiste hostile à la monarchie absolue.
Alors oui, tout à fait, parce que la Borderie, c'est un légitimiste qui pense à une monarchie qui est plutôt, son modèle, c'est plutôt la monarchie de la Renaissance, celle qui respecte les corps intermédiaires, qui respecte les provinces, les privilèges, et il voit justement dans la répression le premier pas vers, et donc il reprend cette idée, il va plus loin, il va un pont plus loin que Chateaubriand, il reprend cette idée d'une répression pendant qui est terroriste. Un terroriste, le terme sera repris après par l'historien Yves-Marie Berset pour caractériser l'ensemble des répressions de l'époque de Louis XIV, il dira qu'elles sont exactes et terroristes. Alors, en fait, le terme vient de la Borderie, et avant, l'idée vient de Chateaubriand, pour autant que j'ai pu le voir à travers mes différentes lectures. Donc la Borderie joue un rôle colossal, et la Borderie lance, hein, tout de suite quand la Borderie a fini son ouvrage, Charles Le Goffic, l'écrivain, écrit un roman, Les Bonnets Rouges, l'affaire est lancée, et
Là, on est en quelle année, à peu
là,
près?
Alors là, on est au début du XXe siècle, avant la guerre. La jeune Mona Ozouf, qui est encore Mona Soyer, dans Composition française, raconte combien dans la bibliothèque paternelle il y avait les bonnets rouges, qui peuplaient cette bibliothèque, un texte magnifique dans lequel elle montre comment la bibliothèque paternelle a nourri un imaginaire dans lequel les chouans n'apparaissent pas, parce que les chouans, c'est la droite, et les bonnets rouges, eux sont déjà là. Et donc, on est dans l'entre-deux-guerres. Et ensuite, le grand moment d'explosion, c'est les années 70. Les années 70, clairement, tout ça a été plutôt à usage d'intellectuels, de savants, d'historiens, d'instituteurs cultivés, de notaires membres de sociétés savantes. Et puis, dans les années, à partir des années 70,
ça bascule.
Ça tombe dans le domaine public, très clairement. Très clairement. Et là, je crois que c'est l'UDB qui joue un rôle colossal.
L'UDB est rappelé.
L'Union démocratique bretonne, qui s'est créée quelques années plus tôt, qui se saisit de cette histoire parce que pour eux, les bonnets rouges, ce sont des révoltés qui regardent vers l'avenir. Ce ne sont pas des révoltés passéistes. Ils retournent finalement. Parce que dans les bonnets rouges, il y a certains textes qui existent, notamment les codes paysans, qui semblent annoncer les cahiers de doléances de la Révolution française. Ce que je ne crois pas un seul instant. Mais c'est ce qui est vendu par les historiens de l'époque qui le pensaient, qui pour un certain nombre le pensent encore dur comme fer. Moi, je ne suis pas très convaincu par l'idée. Je pense que c'est des requêtes envoyées au roi. Il se trouve qu'il y a quelques revendications qui effectivement trouveront
leur... Par des paroisses du Pays Bégoudin.
Et qui sont... effectivement, il y a des revendications qui vont trouver leur application pendant la Révolution, mais c'est pas une hirondelle ne fait pas le printemps, si vous voulez. Et quand on fait de l'histoire des textes, on voit bien que c'est un règlement doublé d'une requête. Enfin voilà, c'est faut pas non plus y voir plus que ce n'est. Toujours est-il que l'idée est que ces bonnets rouges regardaient vers l'avenir, c'était des paysans modernes, et notamment l'UDB est très intéressé par ces paysans parce que ces paysans n'étaient pas forcément qu'en lutte contre l'impôt, ils étaient aussi en lutte contre toute forme de domination, la domination et la domination seigneuriale. Il y a eu, c'est vrai, pendant la révolte des bonnets rouges, des attaques de presbytères et des attaques de châteaux. Donc évidemment, une sensibilité de gauche ne peut que s'y retrouver. C'est pour ça que dans la bibliothèque, celle qui deviendra Mona Ozouf, les chouans n'étaient pas là et que les bonnets rouges étaient déjà là. Finalement, il y a eu une captation de la mémoire qui se joue notamment apparemment dans l'entre-deux-guerres, où les bonnets rouges passent à gauche. Parce que justement, les historiens mettent en évidence le fait que mettre l'impôt au second plan, l'impôt n'était qu'un prétexte finalement, et mettent en évidence les attaques de châteaux, les attaques de presbytères. Et donc évidemment, on voit bien que ça peut notamment fonctionner même à des fins électoralistes, dans une région qui n'a pas une très forte industrie, fonder une histoire. Vous avez des ancêtres qui, quoique paysans, étaient rouges, c'est très bon. Et puis il y a cette histoire de bonnet. Évidemment, ça tombe bien, le bonnet est rouge. Il y aurait été violet ou orange, ça aurait peut-être été différent.
Très rapidement, vous dites que les Bretons n'ont pas le monopole des bonnets rouges et que les premiers, c'est des bourguignons, c'est ça?
Oui, alors sur lesquels on ne sait pas grand-chose.
À
la fin du XVIe siècle, il y a une révolte des bonnets rouges en Bourgogne. Et puis, en fait, on se rend compte que des bonnets rouges, c'est vrai que c'est une coiffe de cette partie-là du monde, mais il y a d'autres endroits sur Terre où on porte des bonnets rouges. Et puis, surtout, archivistiquement, on n'a pas beaucoup de traces des bonnets rouges en 1675. C'est essentiellement une construction d'historien. C'est un travail qui reste à faire, d'ailleurs, savoir pourquoi les révoltes s'appellent ainsi. Il y a des révoltes qui portent des noms parce qu'effectivement, c'est le nom qu'on leur donnait à l'époque. Puis, il y en a d'autres qui sont des noms inventés par les historiens. Là, c'est le cas. C'est Jean Lemoine, un archiviste du Finistère de la fin du XIXe siècle, qui fait un très bon article, un petit livre d'ailleurs, qui s'appelle « La révolte du papier timbré » et en sous-titré tout petit « Et dites aussi des bonnets rouges ». Parce qu'il est le premier à avoir repéré dans les archives l'expression « bonnet rouge » et il la sort. Et à partir de là, elle va progressivement prendre, notamment avec Charles Le Goffic, dont je parlais tout à l'heure, qui va en faire un livre. Mais quand on retourne aux archives, en fait, les bonnets rouges, on ne sait pas très bien qui c'est, en fait.
Mais le chassé-croisé droite-gauche est très passionnant dans cette affaire-là. Au fond, ce qui se joue, c'est aussi le rapport à la centralisation, à la régionalisation. Ouais. Voilà, la régionalisation bascule d'une façon générale de droite à gauche.
Ça fait partie de toutes ces valeurs qui basculent de l'un à l'autre. Effectivement, le mouvement breton est sorti discrédité après la guerre, évidemment. Il m'a mis un certain temps à ressortir. Et quand il ressort à gauche, plutôt à gauche, et même de plus en plus à gauche. Et donc, en fait, les années 70, on voit les militants de l'UDB. Notamment, il y a un élément très intéressant, c'est une pièce de théâtre. Il y a deux pièces de théâtre, notamment il y en a une qui a un succès colossal, qui est écrite par Paul Koenig, qui s'appelle « Le printemps des bonnets rouges », qui est d'abord montée en région parisienne et qui ensuite est montée en Bretagne avec le soutien des militants du DB, avec des tournées. Et on a des textes journalistiques dans Ouest-France qui montrent que des gens vont parfois pour la première fois au théâtre pour voir cela. Et en 1975, c'est le tricentenaire. À Rennes, il y a le spectacle tourne. Et donc, tout ça fonctionne. Les universitaires remettent une couche. Certains écrivent des livres. L'un d'eux est dédié à Marcel Cachin. Donc, on voit tout de suite dans quel, où on est. D'autres sont moins engagés. Mais donc, il y a toute une réflexion là, qui se met en place et qui se double d'une approche très militante. Il s'agit de montrer, de donner des figures. Il y a une affiche de l'UDB qui montre un bonnet rouge, alors qui n'en est pas un, puisqu'évidemment nous n'avons pas d'image des bonnets rouges, un bonnet rouge revu par un artiste du mouvement Seisbreur du milieu du XXe siècle. En face, un paysan sur son tracteur, et on met 1675-1975, la lutte continue.
Ouais.
Hein, ton combat, c'est leur combat, et ensemble, contre la domination, pour la régionalisation, parce qu'effectivement, les bonnets rouges, et c'est là où il y a une petite ambiguïté, en luttant contre l'impôt, ils luttaient contre une forme de centralisation, mais ils ne luttaient pas que pour ça.
Mais comme vous disiez tout à l'heure, et voilà, à telle période, les bonnets rouges passent à gauche, donc à droite, à gauche, les régionalistes, le PC, l'extrême droite, dernièrement la FNSEA, le syndicat paysan.
Oui,
alors. 2013, alors.
Oui, j'insiste sur ce point parce qu'effectivement, c'est un point de désaccord avec d'autres historiens. La culture de gauche est beaucoup plus visible dans l'espace public que la culture de droite, qui est peut-être plus salonnière, plus familiale, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est moins visible. J'ai pu constater de mon côté qu'il y avait le maintien d'une mémoire de droite des bonnets rouges, beaucoup moins visible que la mémoire de gauche, mais qui néanmoins existait. Et donc, je suis moins étonné que d'autres de mes collègues de voir que les bonnets rouges ont pu parler à des gens de droite. Parce que la Borderie, Charles Le Goffic n'était pas des bolcheviks.
Oui, sur le mode résistance à l'État, la résistance bureaucratie à l'État.
Exactement.
Et donc
ça
à
se maintient.
République aussi.
Ça se maintient. Je peux citer une anecdote. Une des premières patrouilles des scouts d'Europe créées à Rennes avait pour cri de patrouille, comme ont toujours les scouts, Toreben. Créé à la fin des années 60, début des années 70. Toreben, c'est le casse-lui la tête, on peut dire casse-lui la gueule. C'est le cri de ralliement des bonnets rouges. Pas seulement, mais c'est aussi ça. Donc à la fin, voilà, on est disons en 1970 à Rennes. Il y a des gens, donc c'était dans une troupe scout qui venait du mouvement Blémor, plutôt donc du mouvement bretonnant. Troupe scout dans un mouvement qui plutôt conservateur. Cette mémoire, elle existe. Voilà. Mais évidemment, ça, c'est moins visible que des affiches de l'UDB. Non, moi, ce genre de petits indices me laisse penser que oui, la mémoire des bonnets rouges s'est maintenue à droite, mais peut-être autour de conversations de table, de famille, et pas forcément à travers des BD ou des proclamations d'Edmond Hervé. Même Charles Hernu a joué un rôle dans la promotion des bonnets rouges au sein de la
SF. Charles Hernu.
Charles Hernu, qui était grand ministre de la Défense de François Mitterrand, et qui était Quimpérois d'origine, et qui, maire de Villeurbanne, je crois, mais Quimpérois d'origine, et qui, dans les années 60, au sein de donc, ce qui était encore la SFIO, avait monté une sorte de club de Bretons de Paris au sein du PS, qui n'était pas encore le PS, et qui s'appelait le club des bonnets rouges. Donc, voilà, à gauche, ça parle. Mais pas seulement.
Mais du coup, est-ce que 2013 ne conforte pas cette idée-là ? Est-ce que ce n'est pas un retour à droite des bonnets rouges ?
Il faudrait, alors c'est là où là je me tourne vers il faudrait que je me tourne vers un politiste, y en a-t-il un dans la salle? Est-ce que monsieur Troadec, maire de Carhaix, est de droite? Parce que est-ce que les militants de l'UDB qui sont allés manifester en masse à Quimper la grande manifestation quimperoise, est-ce qu'ils sont de droite? Je ne crois pas, c'est un petit peu la... C'est à la fois la magie, ce qui a gêné beaucoup de gens, mais qui en même temps fait le caractère fascinant de l'événement, c'est que, un peu à la mode du célib d'autrefois, il y a eu cette idée que pour défendre le territoire, on pouvait s'allier par-delà les différences idéologiques, au nom du territoire, l'intérêt supérieur de la défense du territoire, dans un contexte passablement anxiogène. Hein. Il faut quand même rappeler que même un ministre avait parlé, je crois, de matraquage fiscal, donc c'est dire si même un ministre en a conscience que ça peut légitimer la contestation en ce sens, et c'était Pierre Moscovici, je crois. Et il y avait donc ce contexte-là qui vient s'ajouter à des fermetures d'entreprises emblématiques des succès bretons, relayé par la presse sur un mode complètement anxiogène, hein, il faut quand même se souvenir. Et donc, dans ces cas-là, quand il y a le feu à la maison, droite ou gauche, pardon, mais tout le monde y va, tous ensemble, sur le pont. Donc, je crois que là, et effectivement, il était possible de lire cela en disant « Paris n'y comprend rien, il nous met une écotaxe, nous on est au bout du monde », ce qui est difficilement contestable, on est quand même au bout de l'Eurasie.
Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus dans le contexte des années 60 où, effectivement, l'adossement au bonnet rouge a pour contexte le joint français, le Plogoff, etc.
Non, on est dans une sorte de prise...
La sociologie de la mobilisation n'est plus du tout la même, quand même.
Alors, il faudrait pouvoir faire une analyse précise des gens qui étaient dans la rue à ce moment-là. Je suppose qu'elle est plus ou moins en cours. Enfin, je l'espère, en tout cas. Il y a eu quelque chose d'assez intéressant, c'est l'idée d'une sorte de concordance des temps. Et là, qui est très, sans doute très révélatrice de ce qu'un certain nombre de dirigeants syndicaux, Thierry Meret, politiques, économiques bretons, ont une certaine connaissance de l'histoire de la Bretagne. Alors évidemment, on peut toujours dire, vous la connaissez pas bien, pas assez, pas ceci, etc. Mais je trouve quand même que c'est intéressant qu'il y ait cette concordance des temps. C'est quoi ? C'est de dire, au fond, il y a un parallèle entre ce qui s'est passé en 1675 et ce qui se passe en 2013. 1675, pluie d'impôts. Là-dessus, plus d'impôts, plus crise économique. Parce qu'on a dit qu'en 1675, la Bretagne était en crise économique, elle rentrait dans un cycle de crise économique, et donc on avait mis des impôts là-dessus, c'est ce qui avait provoqué la révolte. Donc révolte. 2013, plus d'impôts qui viennent à un moment où la conjoncture bretonne semble se retourner. Et où c'est même encore plus douloureux pour les Bretons, parce que les Bretons avaient peut-être jusque-là un petit peu l'impression qu'ils étaient à l'abri de la crise durable, qui n'est peut-être pas une crise après tout, de l'économie française. Ils avaient des succès enviables, les Bretons étaient fiers de cette formidable aventure collective qui a été la leur depuis l'après-guerre, lancée par le Célib, et que finalement tout allait bien. Il y avait même une sorte d'autosatisfaction assez généralement entendue chez les décideurs. Et tout d'un coup, tout ça semblait s'effondrer avec des entreprises emblématiques dans le monde de l'agroalimentaire. Et j'insiste sur le côté agroalimentaire. L'agroalimentaire, ça veut dire des producteurs agricoles, des transporteurs, des ouvriers, c'est quelque chose qui peut provoquer l'unanimité. Donc là, il y a eu cette idée qu'il y a une concordance des temps. On est comme en 1675. Il ne faut pas oublier que quelques années plus tôt, le maire de Carhaix, Christian Troadec, avait lancé l'idée qu'il vivait déjà un printemps des bonnets rouges pour défendre sa maternité contre les Parisiens qui ne comprennent rien, justement. Les Parisiens qui ne comprennent rien à nos logiques territoriales. Donc l'idée, sauf que Troadec, en 2008, il a pensée bonnet rouge, il le raconte, hein, de place de la gare, quand j'ai sorti le nom bonnet rouge, ça a provoqué une sorte de bouffée, là, de murmure, sauf qu'il n'a pas mis les bonnets rouges sur la tête. Donc en 2013, là, le coup de génie communicationnel, parce que dans une société de médias qui fonctionne à coup de chaîne de l'info, ça marche très bien, c'est le bonnet sur la tête, qui fait un effet visuel terrible.
Depuis deux jours, les couturières de cet atelier ne chôment pas. Ce sont elles qui confectionnent le fameux bonnet rouge, devenu symbole de la contestation bretonne. Le patron en avait distribué 900 en soutien aux agriculteurs le week-end dernier. Il prévoit d'en vendre 2 à 3000 pour la manifestation de samedi à Quimper.
Qu'est-ce que vous pensez de la chronique des trois historiens Alain Croix, André L'Espagnol et Fin Schroedt, qui ont parlé de... c'était en novembre 2013, en plein dans les bonnets rouges écotaxe, qui dénonçait une manipulation de l'histoire, qui rappelait que la révolte de 1675 visait les exploiteurs, ceux qui étaient perçus comme les exploiteurs, les agents du fisc, les seigneurs et parfois même le clergé, mais que c'était une révolte avant tout sociale, et que c'était pas contre Paris censé être responsable de tous les maux. Et ces trois historiens rappelaient aussi que en 2013, une part incombe à certains, ils ne les citent pas, certains chefs d'entreprise et certains syndicalistes agricoles qui n'ont pas vu ou pas voulu voir l'effondrement d'un modèle économique devenu dépendant des subventions européennes.
Alors je ne peux pas jeter tout le bébé avec tout le bain. Moi, je partage évidemment une partie de cette analyse, notamment, mais je ne suis pas non plus dans le secret des dieux, je ne fais pas de l'histoire hyper contemporaine, je ne sais pas quel était le degré de connaissance de ces décideurs de la situation réelle. Effectivement, ils semblent se dire qu'ils n'ont peut-être pas assez anticipé. Concernant cette chronique, elle me semble aussi révéler quelque chose, c'est l'extrême irritation chez... Elle me semble révéler deux choses. L'extrême irritation chez un certain nombre d'historiens de toute forme d'instrumentalisation de l'histoire. On se souvient de Guy Mocquet chez Nicolas Sarkozy, on se souvient du débat sur l'identité nationale, et donc la communauté historienne était sans doute hyper sensibilisée à toute forme de récupération historique, notamment par la droite. Et là, manifestement, voilà, ça participe de ça, et je crois aussi qu'il y avait cette idée que les historiens sont eux-mêmes partie prenante de la fabrication de cette identité bretonne. C'est-à-dire que même s'ils le font de manière intelligente, subtile et en disant oui mais, etc., ils participent de ça. Et donc, ils ont quelque part accompagné aussi ce basculement à gauche qui s'est accompagné aussi, on ne l'a pas évoqué, mais qui est concomitant aussi de cette redécouverte d'une fierté bretonne. Hein, cette revalorisation des bonnets rouges, c'est aussi le festival interceltique, c'est aussi toutes ces choses-là qui jouent par derrière et qui se jouent aussi dans le basculement à gauche. Et donc, quand ils ont vu la droite se saisir des bonnets rouges, pour eux, c'était, comme disent les jeunes, juste pas possible. Parce qu'ils avaient peut-être pas assez vu, à mon sens, qu'il y avait le maintien d'une mémoire de droite des bonnets rouges, qui insistait sur le caractère antifiscal de la révolte. Et qu'ils y ont vu d'abord, pour eux, ils avaient, à mon avis, surinterprété la dimension lutte des classes et guerre au château, qui a existé. Mais je rappelle une chose, comptons le nombre de châteaux existants en Bretagne en 1975, combien ont été effectivement brûlés ? Une infime minorité. Donc, vous voyez, j'en reviens au débat antérieur. Donc, moi, je suis assez critique par rapport à cette tribune, que je n'ai pas à juger, chacun est bien libre de penser ce qu'il veut, mais voilà, je sais que dans cette tribune, il y avait aussi l'idée qu'on revenait aux heures les plus noires de notre histoire, la manipulation d'histoire. Bon, les heures les plus noires de notre histoire, c'est un argument qui, à force d'être utilisé, va finir par être complètement périmé. Donc, il faut faire peut-être aussi attention à son usage.
Christian Lebas.
Alors, face à cette, ce qu'on pourrait appeler une sorte de surchauffe hein, dans les usages inconsidérés, excessifs de la référence à l'événement... Je trouve extrêmement intéressant que, effectivement, votre parti pris soit de dire on va revenir à l'événement et en particulier, je cite l'introduction du livre, sans honte, hein, faire une histoire événementielle. Alors pour nous qui ne sommes pas des professionnels, des historiens professionnels, c'est toujours fascinant l'idée de revenir à l'événement, ce qui suppose aussi des sources nouvelles. Vous évoquez, je crois, la correspondance de Colbert qui avait jamais été, enfin, passive, c'est la lettre qu'il a reçue, c'est ça que ça veut dire, j'imagine. Donc, qui n'avait jamais été utilisée dans cette perspective-là. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous dire un mot à la fois de ce parti pris d'histoire événementielle et puis la question des sources?
Alors, les historiens ont congédié l'événement au milieu du XXe siècle. C'est l'école des annales hein, qui, évidemment, a tendance à mettre... À mon avis, ils n'ont jamais complètement évacué. Hein, puisqu'effectivement, l'idée, c'est que l'événement n'est plus aussi décisif, n'est plus aussi important, mais tout ce qu'on fait autour est pour l'expliquer. Hein. Oui, alors moi, j'ai voulu revenir à l'événement parce qu'au fond, tout simplement, en tant qu'enseignant, régulièrement, j'enseignais cette histoire et je ne m'y retrouvais pas très bien. Et j'avais un petit peu envie de savoir ce qu'il y avait derrière ces querelles interprétatives, ces différentes couches de peinture, les unes blanches, les autres rouges, les autres noires, aux couleurs de la Bretagne, et puis tout ça se mélangeant un peu plus ou moins. Et donc j'ai voulu enlever la peinture et revenir à la matière brute qu'il pouvait y avoir derrière, revenir aux sources. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est en posant une question méthodologique, c'est comment on raconte un récit finalement. Il y a un moment où il faut savoir de quoi on parle. Même le grand Marc Bloch disait à propos des historiens de la Révolution, robespierriste, anti-robespierriste, de grâce, dites-nous d'abord qui était Robespierre. Il y a un moment où il faut savoir de quoi on parle. Après, et donc, il faut oublier un peu les grandes interprétations. À mon sens, c'est une étape nécessaire régulièrement. Il faut revenir sur ces choses-là. C'est notre premier métier. Et ça implique un travail des sources que je dois reconnaître. Les historiens savent très bien enseigner aux étudiants de licence, mais qu'ils peuvent parfois, pas tous évidemment, j'exagère un peu, je ne vais pas non plus tirer trop sur ma corporation, peuplée de brillants collègues, mais parfois les historiens, et je ne m'exclus pas, ont tendance à faire une lecture un peu parfois naïve des sources. Et sur un dossier comme celui-ci, c'est le cas. Typiquement, ce que je disais tout à l'heure à propos de l'analyse, qui écrit ? D'où il écrit? Quand est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'on peut... J'étais frappé de voir que les historiens pratiquaient ce que j'appelais la technique de l'enfilage de perles. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent tous les événements les uns à la suite des autres, ils les enfilent, et après ça, ils font un récit rapidement ficelé, en retenant. Et quand ils sont face à une contradiction de sources qui disent des choses contradictoires, bah, ils privilégient celle qui leur semble la plus vraisemblable, mais souvent au vu de leurs propres critères et valeurs personnelles. Et moi, je me suis amusé à dire, bon, bah, parfois, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. J'ai fait des tableaux synoptiques en mettant des récits. Et j'ai essayé de voir pourquoi ces gens-là, qui semblent être aussi proches de l'événement, disent des choses différentes de la manière dont c'est passé. Donc, c'est des problèmes de représentation. Et puis, il y a un moment, on est obligé de dire qu'on ne sait pas. Donc, revenir à l'événement...
Quantifier aussi, souvent.
J'ai essayé de quantifier aussi un petit peu, et puis essayer de découvrir à travers ces scripteurs. Je me suis beaucoup intéressé à Rennes, on a la chance d'avoir beaucoup de scripteurs qui ont raconté l'événement, essayer de voir dans quelle mesure ça pouvait pas permettre de dégager des cultures politiques, enfin des idées politiques. Est-ce qu'on pouvait, au fond, pour ces gens qui appartiennent tous au même milieu, de la petite robe, moyenne robe, des petits robins, c'était frappant de voir qu'ils avaient pas le même regard sur l'événement. Certains, pour eux, la faute c'est l'État qui nous accable d'impôts, Et pour d'autres, la faute, c'est le peuple qui est décidément insupportable et qui n'arrête pas de se révolter de manière intempestive. Deux sensibilités politiques qui apparaissaient bien avant la Révolution française, la naissance de la gauche et de la droite.
Pour prolonger, nous ne pouvons qu'inviter les auditeurs de Canal B à lire 1675, Les révoltes du papier timbré de Gauthier Aubert aux presses universitaires de Rennes, 29 €, et Les révoltes et répressions dans la France moderne chez Armand Collin, 25 €. Merci beaucoup Gauthier Aubert, merci Christian Lebar et merci notre réalisateur Ronan Lemouer. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre chercheur en ville en avril.